Slate Podcast.
Bonjour Lucille.
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 Chère Lucille.
Salut, c'est Lucille Bélan. Bienvenue dans C'est compliqué le podcast. Au programme de cet épisode, le message d'Emma, qui voudrait témoigner des conséquences sur la sexualité après une relation toxique. En seconde partie, nous parlerons de la culture que nous transmettons ou pas à nos enfants.
J'ai été prise au piège par un pervers narcissique de type grandiose, comme on l'appelle, qui passait son temps à dire qu'il était surpuissant et le maître du monde.
L'ex-compagnon d'Emma a commis sur elle des violences psychologiques, physiques et sexuelles. Cette histoire est terminée depuis un peu plus d'un an.
J'ai réussi à m'évader et du coup, le chemin vers le fait de pouvoir à nouveau être touchée par quelqu'un sans trembler comme une feuille a été assez long. Mais progressivement, m'amène à redécouvrir mon corps et comment y retrouver du plaisir à cet endroit-là.
Emma témoigne pour toutes les femmes qui souffrent des conséquences d'une relation toxique.
Et même indépendamment des pervers narcissiques à proprement parler, qui sont vraiment des sales vermines, il y a d'autres relations toxiques qui font aussi ces effets malheureusement délétère et je sais que je suis pas la seule. Maintenant, j'ai compris ça et j'ai aussi cessé de me culpabiliser du fait d'avoir vécu ça. Mais voilà, c'était quand même très compliqué et ça l'est toujours forcément.
Chère Emma, ces relations toxiques ont en effet des conséquences bien après que la relation soit finie et que la personne ait disparu de notre vie. C'est le propre de la toxicité. Ce sont des graines plantées à l'intérieur de nous, qui grandissent après de leur propre chef, qui détruisent parfois des parties de nous, qui nous cannibalisent. Les phrases assassines et la violence physique ne s'inscrivent pas juste dans un temps précis. Pour la personne qui les reçoit, elles ne sont pas un instant qui s'évanouit comme ça. Elles viennent creuser des blessures visibles ou invisibles. Elles viennent remettre la peau à vif. Elles créent des dommages de plus en plus profonds. Elles s'expriment ensuite parfois par des troubles du stress post-traumatique et d'autres conséquences graves des relations toxiques. Dans ce contexte, tout est grave. Et pour la victime, la reconstruction est un temps qui peut être long. Dans le cas des maltraitances physiques, psychologiques et sexuelles, je conseille désormais d'aller voir un ou une spécialiste de l'EMDR, qui est une thérapie qui peut faire des miracles sur les souvenirs traumatiques. Il est important de demander de l'aide. Dans la vie, je sais combien le temps participe à la reconstruction. Nos cerveaux et nos corps trouvent aussi des parades pour continuer à se remettre sans que la vie ne rouvre trop nos blessures, comme quand votre démarche s'adapte à une entorse. Le plus important, c'est d'admettre ce temps de convalescence et d'accepter qu'il n'y ait pas de longueur prédéfinie ou applicable à toutes. Vous aurez besoin du temps qu'il faut. Écoutez-vous surtout. Ne vous bousculez pas. Comme vous le dites, Emma, on guérit. Même si c'est compliqué, on peut toujours en parler. La culture que nous transmettons à nos enfants, c'est notre thème du jour. Ma fille aînée va bientôt avoir 11 ans. C'est une pré-ado avide de découvrir le monde qui me rappelle la personne que j'étais à son âge. Juste avant la démocratisation d'Internet, j'étais portée par un sentiment perpétuel de frustration. Il n'y avait pas assez de nouveaux livres dans la bibliothèque de mon village, pas assez de nouveaux films dans la salle de cinéma de la ville, pas assez d'argent pour aller plus loin, voir des expos ou aller au théâtre aussi souvent que je le voulais. Je me suis fait ma culture comme j'ai pu, avec ce que j'avais autour de moi, et au fur et à mesure que je grandissais en allant toujours plus loin de mon village. Ma pré-ado n'a pas ses problèmes. Elle profite de plusieurs abonnements VOD, de la générosité de ses parents pour ses livres et ses jeux vidéo, d'une grande médiathèque pas loin. La seule limite dont elle souffre, c'est de ne pas savoir où chercher tellement l'offre est pléthorique. Et c'est là que vous imaginez bien que j'entre en jeu. Je ne suis pas seule. Ses amis et son père jouent évidemment un rôle dans les découvertes de ma fille, mais je ne veux parler que de ce que je connais de mon côté. Déjà, je me suis rendu compte que mon premier réflexe, c'était de partir du principe qu'elle souffrait du même type de frustration que moi à son âge. Première erreur. Elle souffre principalement d'être constamment devant un vaste buffet culturel, sans savoir quoi en faire comme un lapin pris dans les phares. Et sa réponse est souvent du même type. Ne sachant pas quoi faire de tout ça, Elle préfère se tourner vers des valeurs sûres. Le deuxième réflexe que j'ai pu avoir, c'est d'essayer de lui faire découvrir tout ce qui m'avait plu à moi, à mon époque. Évidemment, on imagine sans mal que le monde dans lequel elle grandit, post-pandémie, post-crise économique, pré-catastrophe écologique, n'a rien à voir avec la fin des années 90, où rien n'était un vrai sujet, tant que la surconsommation pouvait battre son plein. Enfin, mon troisième réflexe, ça a été d'essayer de lui faire découvrir tout ce qui me plaît maintenant. Dans cette étape, j'ai oublié au passage que j'avais 36 ans et un humour douteux, et qu'elle n'en avait pas encore 11. Alors si les vidéos de Tcha la font marrer, et qu'elle ne s'offusque pas quand je la compare au personnage de Chad dans les sketchs du SNL, j'ai bien conscience qu'il n'est pas très sain, que je partage sans filtre les éléments de culture qui m'interpellent, tout simplement parce que nous n'en sommes pas au même stade dans nos vies. Quand j'y réfléchis, j'arrive bien à voir que si la question de la culture de mes enfants est un sujet aussi important pour moi, c'est parce que c'est la culture qui m'a construite. Pas les endroits où j'ai grandi, pas les rencontres avec différents adultes dans mon enfance, pas totalement le milieu socio-professionnel de mes parents, mais bien les émissions que j'ai vues à la télé, les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, parfois le fait d'avoir eu le sentiment de manquer. Le moment même où je me suis rendu compte que j'en étais à un stade de ma vie où je n'allais plus manquer a aussi été fondateur. Chaque livre, chaque BD, chaque film, chaque dessin animé ou émission de la grande époque Canal a été tellement important pour moi que j'ai peur aujourd'hui que ma fille passe à côté. Il y a désormais de la culture tout le temps, partout. Une infinité de programmes à découvrir et regarder. Des dizaines de livres, BD et mangas qui sortent chaque mois. Tellement de trends sur TikTok qu'il est presque impossible de tous les suivre. La culture est aujourd'hui une masse, plus qu'elle n'est de masse. Ça m'a pris du temps de trouver quel était mon rôle dans tout ça, pour elle. Que comme j'étais sa mère, je n'avais aucun intérêt à essayer d'être l'adulte cool, que je ne serais de toute façon jamais. Que ce n'était pas une mini-moi à qui j'allais pouvoir offrir la meilleure expérience de vie possible, tout en résolvant sur elle ce qui avait été problématique pour moi. Que l'expérience culturelle avait changé aussi. Je lui achète des romans survivalistes, parce que c'est dans l'air du temps, et que je crois qu'elle les aime vraiment bien. Je lui montre parfois une vidéo ou deux de trucs qui me font marrer. Je lui partage mon univers à moi, sans l'obliger à se l'approprier, comme on montre parfois de vieilles photos dans un album. Je n'oublie pas de dire que cette culture, c'est la mienne, ou que c'était à mon époque, pour qu'elle ait toute la place de se faire sa culture, celle de son époque. J'essaye de lui donner des clés, plutôt que d'imposer directement les choses. Quand elle s'est mise au manga, comme moi des décennies avant, j'ai préféré lui faire découvrir le site Manga News, plutôt que de lui conseiller bêtement des séries. J'ai essayé de lui apprendre à utiliser seule les moteurs de recherche de Netflix ou de YouTube, plutôt que de lui prémâcher le travail. Surtout, je lui ai appris à aller chercher partout des recommandations, à se laisser porter par son instinct quand elle voyait une affiche, à aller voir des bandes-annonces, à lire des articles dans la presse, à chercher seule. Ça ne m'empêche pas de parfois m'emballer et lui mettre 4 bouquins dans les mains et de lui dire que je vais lui montrer ça et ça et ça. Mais j'ai bien conscience que ce geste de partage, il est surtout pour moi. Avec les bons outils, elle se fera sa propre culture. Elle n'a pas besoin de moi. C'était C'est compliqué le podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou envoyer un commentaire. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué@slate.fr ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. C'est compliqué est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez.